Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour du 13 septembre. Sans détour qui est de retour après une pause estivale. Aujourd'hui, je vous propose de réentendre des entrevues de la saison dernière sur des sujets qui sont toujours d'actualité. Nous allons entendre l'entrevue avec Katina Nkek, qui est coordonnatrice de la mobilisation Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Elle nous parlait des lacunes dans les ressources pour les femmes handicapées victimes de violences. En avril dernier, était lancé un site ayant pour objectif de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap issues des Premières Nations. Nous en avions discuté avec Rose-Anne Gosselin, qui est conseillère du développement des capacités à la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Yvon Provencher, du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, discute avec nous des questions de passer par l'éducation afin de parvenir à une meilleure accessibilité du web pour les personnes ayant un handicap visuel. Enfin, on va redécouvrir les services spécialisés de main-d'œuvre dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi en situation de handicap en compagnie de Danielle Sirois, directrice générale de CEMO Côte-Nord. Tout ça à Sans détour! La violence faite aux femmes est un sujet, est une réalité abjecte qu'on ne peut pas ignorer si on veut en venir à bout. Et malheureusement, les femmes en situation de handicap sont encore plus vulnérables et le manque de ressources pour les aider est vraiment criant. Nous avons avec nous Mme Katina Nkek, qui est coordonnatrice de la mobilisation au Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Bonjour Mme Nkek, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien et vous?
Ça va bien, merci. D'abord, il faut quand même dresser un peu le portrait de la situation des femmes en situation de handicap face à la violence conjugale ou à la violence, on pourrait dire, familiale, parce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui les menacent que leur conjoint.
Oui.
Et dans ce sens-là, avez-vous des chiffres qui illustrent combien les femmes sont vulnérables dans cette situation?
Oui, définitivement. Donc déjà, comme vous avez bien dit, c'est pas toujours la violence conjugale, c'est vraiment une violence dans la famille ou même des aides-soignants. Mm-hmm. Et dans Statistique Canada, dans le recensement de 2015, ça a déjà démontré que 24% des femmes au Canada sont des femmes en situation de handicap. Et il ne faut pas oublier dans tout ça qu'il y a une surreprésentation de femmes en situation de handicap dans les prisons, les hôpitaux et même en situation d'itinérance qui n'ont pas été inclus dans ce recensement. Donc le chiffre de 24% est quand même plus petit que la réalité. Et les femmes en situation de handicap sont déjà deux fois plus susceptibles que les femmes qui ne sont pas en situation de handicap d'avoir été victimes de crimes de violence. Et deux fois plus susceptibles d'avoir été victimisées plus d'une fois au cours des derniers 12 mois. Donc, c'est ça, leur vulnérabilité est quand même beaucoup plus accrue que les femmes qui ne sont pas en situation d'handicap.
Oui, parce qu'il y a une vulnérabilité qui, malheureusement, font d'elles des proies qui sont encore plus faciles, je dirais, pour quelqu'un qui a une arme violente. Là. J'ai de la misère à mettre des mots qui passent en ondes là-dessus. Oui, voilà. Mais cela dit, il y a une distinction aussi à faire, peut-être pour ce qui est de la dénonciation puis du fait de pouvoir en parler. Est-ce qu'il y a une différence entre les personnes qui vivent en situation de handicap suite à une déficience, mettons, intellectuelle ou une déficience physique, ou c'est vraiment la même situation, quel que soit le type d'handicap?
Je vous dirais que les femmes qui sont en situation de handicap plus intellectuelle, des fois, c'est encore plus difficile pour eux de se faire croire quand ils veulent raconter leur histoire de violence. C'est beaucoup plus dur de les croire parce qu'on se dit « Ah, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu un coup à la tête, donc ils comprennent un peu moins? » Et même aussi dans leur langage, ils sont peut-être pas capables d'utiliser les mots propices pour expliquer. Et aussi, infantilise, on les prend un peu plus comme des personnes.
On les infantilise, oui,
c'est ça. On les infantilise, donc quand ils expliquent qu'est-ce qui se passe, on les croit moins et on pose plus de questions qui va peut-être les mettre en situation plus de gêne et qui après ils se perdent un petit peu dans leurs mots, donc ils perdent leur crédibilité.
Il y a aussi le fait que les personnes en situation de handicap en général, et chez les femmes, c'est encore plus aigu, il y a aussi une pauvreté, il y a un aspect de moyens financiers qui ne sont simplement pas là. Alors, si elles sont coincées dans une situation dangereuse qui les menace, c'est encore plus difficile d'envisager de s'en sortir.
Oui, ça, c'est vraiment un bon point parce que beaucoup de fois, les personnes qui sont en situation de handicap sont dépendantes de quelqu'un. Mm-hmm. Soit c'est ça, leur conjoint ou dans la famille. Et s'ils reçoivent donc cette violence de ces personnes-là, ils sont dans une impasse. Se dire, je veux sortir de cette situation, mais si je ne dépends plus de cette personne-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais pouvoir recevoir les soins dont j'ai besoin pour vivre ma vie?
Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui vit une femme qui vit cette situation-là? Quelles sont les ressources au Québec, dans la région de Montréal, par exemple, qui sont à leur disposition? Parce que déjà, dans le sens large, les ressources auprès des femmes victimes de violences sont déjà minces.
Oui.
Et pour les femmes handicapées, là, on commence à avoir, on parle plutôt d'absence de ressources.
Oui, ben c'est ça. Les ressources, donc, c'est ça. Il y a des refuges à Montréal, dans la plus grande région de Montréal, mais ce qui rend un peu plus difficile, c'est la barrière de pouvoir demander pour cette aide-là. Donc, même juste un exemple de pouvoir appeler un refuge, c'est devoir utiliser le téléphone. Donc, la personne qui est en situation de handicap, déjà, peut-elle faire un appel? Et déjà, si vous êtes bloqué dans une maison, est-ce qu'elle peut faire cet appel-là en sûreté de la personne qui donc crée cette violence? Est-ce qu'elle peut entendre cet appel-là? Donc, ça déjà, ça crée cette barrière-là de demander de l'aide. Et après, si on pense plus sortir physiquement de cette maison-là, est-ce que la personne peut avoir un transport adapté en urgence? Parce que beaucoup de fois, ces transports-là, il faut les réserver à l'avance. Mm-hmm. Et même en arrivant au refuge, il y a des refuges qui peuvent avoir ces ressources-là, mais c'est comme j'ai dit, il faut réserver ça à l'avance. Donc, avoir un interprète, il faut réserver peut-être 24 heures à l'avance, mais quand on est dans ces situations d'urgence, des fois, c'est au moment même qu'on a besoin.
Et on parle de la grande région de Montréal, mais évidemment, c'est pas différent ailleurs au Québec. Là. On n'a pas beaucoup plus de ressources dans d'autres régions. Je parlais Montréal parce que c'est là que je vis, puis j'essaie d'imaginer comment ça peut se passer. Mais c'est vrai que cette situation-là, faut comprendre aussi que dans le cheminement d'une femme qui essaie de sortir d'une spirale de violence, il y a ce qu'on appelle les refuges qui sont les premières étapes, qui sont pour pallier à une urgence, mais d'habitude à court terme.
Mm-hmm. Oui, donc c'est ça, il y a les refuges, c'est ça, première étape d'urgence qui vont donc accueillir ces femmes sans handicap et avec handicap, qui vont les recevoir et vraiment... les garder peut-être un mois, mais après, il y a des refuges de deuxième étape. Mais pour les refuges première étape et deuxième étape, il y a une absence de services pour les femmes en situation de handicap. Même juste physiquement, est-ce qu'il y a des rampes d'accès? Est-ce qu'il y a des signes dans la maison pour que la personne soit confortable? L'emplacement des chambres? Donc, il y a quand même beaucoup... de barrières, même quand on est dans la maison, dans ces refuges-là, en personne.
Et qu'est-ce qui peut être fait pour corriger la situation? Parce que vous êtes, vous travaillez auprès d'un organisme qui, au Canada, est connu, un Canada anglais, est connu sous le nom de DAWN, Disabled Women Network.
C'est ça,
et en français, c'est le réseau d'action pour les femmes handicapées. Qu'est-ce que votre organisme peut faire pour... corriger la situation parce que c'est essentiellement un appel au gouvernement?
Oui, ben c'est ça. Donc, essentiellement, nous, au Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, on fait beaucoup de recherches et d'études pour donc démontrer ces lacunes et pouvoir donc les amener un peu plus haut donc au gouvernement. Et on travaille avec d'autres organismes qui sont plus communautaires à travers le Canada pour comprendre et faire des études pour savoir où sont toutes ces lacunes-là pour pouvoir rassembler ça et pouvoir... leur amener un petit peu plus haut pour leur dire que vraiment il y a un manque pour ces femmes-là. Et je crois vraiment avec la COVID, ça a vraiment mis une lumière sur les manques d'aide pour les femmes en situation de handicap.
Oui, en général, parce que évidemment dans une situation de coercition et de violence, le confinement imposé à tout le monde fait que ça boucle le couvercle sur la marmite. Là, ça fait simplement une recette encore plus explosive et encore plus dangereuse pour des personnes qui sont en situation vulnérable. La frustration, les questions financières, la dépendance physique de la personne en situation de handicap, tout ça est exacerbé et on a vu en même temps que les services à la disposition de la population sont eux aussi un peu étirés. Il y a eu des lacunes qui sont devenues plutôt évidentes au cours du confinement. Alors là, c'est simplement pire pour cette situation-là. Mais est-ce qu'il y a des numéros, est-ce qu'il y a quelque chose que des gens peuvent faire pour aider ou un numéro, quelque chose qu'une femme en situation de handicap peut appeler ou à quoi est-ce qu'elle peut s'accrocher?
Oui, il y a des numéros, je vous dirais, je les ai pas avec moi, mais c'est ça, il y a Relais Femmes qui peuvent définitivement indiquer où aller chercher de l'aide. Et nous aussi, dans le Canada, vous pouvez toujours nous envoyer des messages et on peut vous pouvoir dire où aller, quelle aide est-ce qu'on peut apporter. Nous, on donne pas de service direct, mais on sait qui peut les donner. Donc, on est toujours une bonne ressource.
Donc, vous parlez de Relais Femmes, R-E-L-A-I-S, Femmes. Femmes au pluriel, au singulier?
Au pluriel.
Au pluriel. Et ça, ça se trouve sur le web? Comment ça marche?
Oui, vous pouvez trouver ça sur le web. Et vous pouvez avoir plus d'informations là pour savoir où aller. C'est ça parce qu'aussi, beaucoup de refuges, ils ont aussi des informations en ligne, mais je dirais qu'ils n'ont pas toutes des informations sur l'accessibilité.
D'accord. Sinon, c'est presque dépendre que le système vous reconnaisse ou vous identifie, parce qu'évidemment, une femme en situation d'handicap peut ne pas avoir accès au web. Il faut qu'elle ait l'Internet. Il faut qu'elle soit capable de s'en servir. Cette ressource-là est comme davantage dédiée aux personnes qui sont autour d'elle ou qui peuvent identifier qu'il y a un problème. Mais c'est certain que c'est une situation... épouvantable qui est vécu. Et ça, c'est la maison à côté de chez nous, c'est la maison de l'autre côté de la rue, c'est quelqu'un qu'on connaît un peu de vue ou quoi que ce soit, puis on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs et comme ça devient très difficile. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de ressources pour les aider une fois qu'elles ont eu le courage de demander de l'aide.
Ben c'est ça, oui.
Alors, il faut continuer à pousser sur les gouvernements dans ce sens-là parce que ça va devoir de prendre de l'argent puis une volonté politique. Bien, Mme Kanita Neck, je vous remercie beaucoup. Vous êtes coordonnatrice à la mobilisation au réseau d'action des femmes handicapées du Canada et on espère que chaque petite pierre qu'on pose va permettre de bâtir quelque chose. Merci.
Oui, définitivement. Merci beaucoup.
Bonjour, Madame Rose-Anne Gosselin. Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Et vous?
Ça va très bien, je vous remercie. Il y a un site web maintenant dont vous allez nous parler aujourd'hui qui a pour nom Nisidotam.
Oui.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, Nisidotam?
Okay. Oui. Nisidotam, c'est un mot algonquin qui signifie « je comprends ».
OK.
Puis, on a aussi les mots dans les autres langues là, des Premières Nations du Québec.
Mm-hmm.
Notre intention d'utiliser le verbe « comprendre », c'est parce qu'on cherche à comprendre de plus en plus ce que vivent les Premières Nations, les personnes des Premières Nations en situation de handicap.
D'accord.
Puis, mais on chemine ensemble vers une meilleure compréhension. On ne l'a pas atteinte une fois pour toutes.
Non,
on chemine ensemble.
Ça, c'est vrai. Puis, les perceptions changent et tranquillement, tout le monde finit par comprendre ce que vit l'autre.
Oui, en effet, oui.
Et
alors, c'est le nom de notre site.
Mm-hmm.
Oui.
Le site est destiné à qui? Aux personnes en situation d'handicap dans les communautés des Premières Nations du Québec ou des personnes qui interviennent dans la problématique?
Oui. Nous, comme vous avez si bien dit au moment de l'introduction,
mm-hmm.
Nous, à la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, on est dans le domaine du développement de l'emploi.
Okay.
L'intégration sur le marché du travail pour les personnes issues des Premières Nations.
Mm-hmm.
Puis, on avait fait comme une étude sur l'emploi et les personnes en situation d'handicap.
Mm-hmm.
Puis quand je dis nous, bien, je parle toujours là, des communautés, oui. Des Premières Nations.
Oui, c'est entendu, il n'y a pas de problème.
Puis on a monté, et puis là on s'est rendu compte que les intervenants de première ligne nous ont dit qu'il y avait un manque de sensibilisation,
mm-hmm.
un manque de connaissances sur comment mieux accompagner une personne vivant avec un handicap. Quels sont les programmes qui sont disponibles? Comment accompagner une personne en situation d'handicap qui veut rencontrer un employeur pour la première
mm-hmm.
fois? On disait aussi qu'il fallait sensibiliser la communauté en général, la population en général, les conseils de banque. Puis, donc, le site vise une plus grande sensibilisation pour les travailleurs de première ligne,
mm-hmm.
les conseillers en emploi, mais aussi pour la population en général.
Pour la communauté elle-même, parce
oui.
que... Est-ce que dans... Là, je vais vous poser une question simple de quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté, d'une communauté de Première Nation. Est-ce que la perception du handicap, évidemment, ça peut varier d'une communauté à l'autre, est-ce que la perception du handicap est très différente de celle qu'on retrouve dans la population blanche? Ou est-ce que culturellement, c'est mieux accepté ou il y a plus d'obstacles au contraire?
Ça dépend.
Mm-hmm.
Bon, plus on apprend, plus on se rend compte que les similitudes sont nombreuses.
Mm-hmm.
Les risques d'isolement, les risques de ne pas avoir accès aux services qui sont là
mm-hmm.
sont similaires.
OK.
Mais dans les communautés autochtones, il y a une grande acceptation.
OK.
Il y a une grande acceptation. Mais le problème, des fois, c'est au niveau économique.
Mm-hmm.
Le développement économique peut être défavorisé. Alors, ça peut rendre... Il y a un manque d'emploi. Alors, ça peut rendre l'emploi pour les personnes en situation d'handicap difficile.
Encore, oui, parce que ça mm-hmm. fait un deuxième obstacle, déjà, d'être dans une communauté où la situation économique peut être mauvaise, puis il y a du chômage.
Oui.
En plus d'être un candidat ou une candidate pour un emploi et d'avoir à, je dirais, surmonter le fait que notre situation d'handicap va paraître souvent pour l'employeur un challenge de trop, là.
Oui, oui. Puis, il y a aussi, ce qu'on observe, c'est que bon, il y a une grande acceptation. Mais les gens qui ont un bon appui familial ou social vont être beaucoup plus épanouis
okay.
que les gens qui doivent compter sur eux-mêmes.
Mm-hmm.
Donc, l'appui familial, parce que des fois, dans les communautés éloignées, il y a moins de... On a moins accès aux services sociaux qu'on retrouve, par exemple, en milieu urbain.
Mm-hmm.
Alors, le support, le soutien familial va jouer un rôle très important pour aider la personne à accéder aux services.
Mm-hmm.
Des fois, il faut quitter la communauté pour avoir des soins de santé. Il faut aller en milieu urbain. Alors, donc, pour briser l'isolement, mais c'est comme ça à Montréal, c'est comme ça partout.
Oui.
Ce sont souvent les familles qui vont accompagner la personne.
Oui, j'ai remarqué en allant sur votre site qu'il y a une idée qui revient assez souvent, vous appelez ça l'auto-représentation.
Oui.
Ça semble important dans le comment accrocher la personne au système.
Oui. Puis des fois, on se demande quelle est la bonne traduction en anglais dans les communautés anglophones. Moi, je vous parle de Ganawagé présentement.
Mm-hmm.
On entend souvent le terme self-advocacy.
Oui, OK.
C'est une forme de militantisme.
Personnel.
Alors, on cherchait le bon mot. Là, on utilise l'auto-représentation, mais des fois, les termes changent aussi, hein?
C'est correct. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est l'idée que la personne en situation de handicap fait elle-même la démarche à la surmonter, sa gêne ou sa timidité, puis est prête elle-même à cogner à la porte.
Oui, mais on valorise beaucoup l'auto-représentation parce que il y a le fait que les gens qui vivent en situation de handicap, quand ils nous parlent de leurs histoires, de leurs expériences, on a plus d'avantages à écouter. On écoute plus. Pas qu'on a avantage à écouter, mais on écoute plus.
Oui.
C'est la même chose dans les communautés. Les gens veulent connaître les personnes en situation de handicap. Quand ça vient d'elles, c'est crédible. Ça nous touche. Puis là, on est capable de dire, oui, puis moi aussi, ça m'arrive.
Oui,
le sentiment d'isolement, ça m'arrive. L'inquiétude, l'anxiété par rapport à la nouvelle démarche. Alors, ça a une portée plus grande et plus loin.
Oui, puis aussi pour la valorisation de la personne en situation d'handicap elle-même, le fait de c'est parce que ce qui est très gênant quand on est dans une situation d'handicap, puis je le sais parce que je le vis parfois, c'est que les gens nous pointent du doigt puis nous disent, lui là, comme si j'étais pas dans la pièce, comme si j'étais comme un enfant ou quelqu'un qui pouvait pas répondre.
Oui.
Et je pense que c'est important aussi, c'est valorisant pour la personne qui vit en situation d'handicap d'être son propre adulte, si je peux dire.
Absolument, absolument.
Dans les recherches d'emploi que vous aidez par votre site, parce que votre site, c'est comme une boîte à outils avec beaucoup de ressources, est-ce que les emplois sont nécessairement destinés pour être auprès d'employeurs qui sont dans la communauté où la personne vit, ou ça peut être des emplois qui sont en dehors de la communauté?
Ça peut être les deux, parce qu'on a aussi des services en milieu urbain.
OK.
Montréal, Sept-Îles, Québec et Val-d'Or.
Mm-hmm.
Puis même si les bureaux physiques sont dans ces villes-là, elles desservent la communauté qui habite à l'extérieur de la communauté, mais dans des régions.
OK. Alors, c'est possible pour la personne en situation d'handicap de s'adresser à vos ressources. Même si elle est rendue en milieu urbain, puis que ses possibilités d'emploi à ce moment-là, ça va être à la ville.
Oui, oui, absolument, oui.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre site? Je parlais d'une boîte à outils, mais je pense que j'ai fait le tour. Il y a beaucoup de choses qui sont mises à la disposition des gens dans votre site.
Oui, il y a ce qu'on appelle le tableau animé.
Mm-hmm.
Qui donne. J'aimerais juste dire que les outils sont basés sur deux sources d'informations.
OK.
Il y a les entrevues que nous avons faites auprès des personnes en situation de handicap dans les communautés. auprès des intervenants, les conseillers en emploi, auprès des membres de la famille. Alors, ce sont les témoignages que nous avons reçus qui nous ont guidés en termes de besoins, en termes de ce que les gens recherchent. Puis, il y a aussi les connaissances qu'on a sur les catégories de handicap. Donc, les connaissances qui sont là pour tout le monde. Alors, les outils tiennent compte de ces deux sources-là. Il y a, par exemple, le tableau blanc animé. Alors là, on décrit un peu ce que c'est de vivre avec un handicap dans une communauté, l'impact que ça a, que ça peut avoir sur l'affectivité de la personne. Mais ça décrit aussi les catégories de handicap pour les gens qui sont dans les communautés, puis peut-être qu'on les connaît moins. Donc, il y a un tableau blanc qui dure à peu près 8 minutes.
Okay.
Puis, on veut, ce tableau comme tel est un outil de sensibilisation qui aide à mieux comprendre ce que vit une personne en situation d'handicap à tous les niveaux. Au niveau, par exemple, social, économique, affectif. Mais, donc, il y a... Mais ce qu'on veut, c'est que après avoir écouté le tableau blanc, c'est qu'il y ait des discussions.
Oui.
Si c'est une équipe de travail qui l'écoute, bon ben que ça amène à une plus grande réflexion, à des discussions, à de nouvelles orientations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux, pour ouvrir nos services davantage?
Parce que souvent, les gens ont des réflexes. J'ai vu... il y a aussi des petites vignettes où on voit des milieux de travail où les gens sont pleins de bonne volonté, mais ils savent juste pas comment se prendre parce qu'ils sont des fois démunis un peu devant une situation avec laquelle ils sont pas familiers ou familières.
Oui.
Ben, c'est un peu ce que votre site aussi aide à faire, aider les gens à parler entre eux puis à découvrir des choses. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Rosanne Gosselin. Vous êtes conseillère au développement des capacités à la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Puis on a parlé aujourd'hui. Le site, c'est facile à trouver. C'est Nisidotam. C'est N-I-S-I-D-O-T-A-M.
Oui.
.ca?
Oui.
OK, parfait. Bon, on va aller voir ça. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup.
Merci.
À vous. Bonne journée.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
L'accessibilité au web, ça c'est un sujet important, surtout pour les personnes qui, comme moi et d'autres, avons un handicap visuel. C'est difficile de concevoir la vie moderne sans être sur Internet de temps en temps, que ce soit pour des produits, des services, l'information. Et pourtant, une grande partie du web et du web made in Québec est pas tout à fait accessible et c'est un sujet toujours d'actualité auquel s'est attaqué le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Et nous avons avec nous M. Yvon Provencher. M. Provencher, bonjour.
Bonjour M. Beauregard, vous allez sur Internet?
Ben j'espère, de temps en temps, mais c'est pas facile.
Ah, ben parce qu'il paraît que il y a des gens qui pensent que on va pas sur Internet.
Ah, désolé. J'ai commis un impair, vous allez me corriger.
Ben non. C'est ça.
C'est un
des mythes à déconstruire.
Parce que j'ai une canne blanche, j'ai pas de clavier, c'est ça, hein?
Ah, moi j'ai un chien guide.
C'est ça. OK.
Non, c'est ça, c'est un des mythes à déconstruire à propos de...
Du handicap et du web, oui.
Voilà.
Parce qu'il y a quelques années, le RAM avait fait une étude qui était déconcertante. Vous aviez identifié... Avec les gens du RAM, donc ce sont des usagers handicapés visuels, c'est vraiment des usagers de première ligne qui ont quelque chose de pertinent à dire au sujet de l'accessibilité. Vous aviez identifié presque 1000 sites couramment utilisés et sur ce lot, la quantité de sites qui passaient la note de passage d'accessibilité était vraiment piètre.
En fait, juste pour préciser, on a fait des évaluations, on appelle ça des évaluations fonctionnelles, avec des personnes qui avaient une déficience visuelle, mais jumelées à des personnes voyantes, parce que souvent, les outils d'adaptation qu'on utilise, surtout les lecteurs d'écran, il y a certains sites web où on a l'impression que tout va bien, mais c'est parce qu'on ne sait pas qu'il y a plein de choses que le lecteur d'écran ne détecte pas.
Voilà.
Donc, c'est pour ça qu'on a fait notre travail en duo, pour être sûr que effectivement les commentaires qui étaient donnés étaient appropriés. Et c'est arrivé parfois que la personne voyante disait « Oui, mais il y a telle chose sur le site, est-ce que… » Et là, on se rendait compte que le lecteur d'écran la détectait. Ne la détectait pas. Donc, sur les 1000 sites, il y a, à l'époque, à tout le moins, quand on a fait l'évaluation, il y en avait 20% ou moins qui atteignaient la note qu'on considérait comme passable.
D'accord. Passable, c'est pas champion, ça veut dire 60%,
non,
ça.
C'est juste correct, mettons. Ouais. Et parmi les 1000 sites web qu'on a évalués, on en a évalué une bonne partie qui étaient des sites web qui relevait du gouvernement du Québec, donc soumis aux standards d'accessibilité que le gouvernement a lui-même adopté en 2011 et renouvelé en 2016, il y en avait 33% des sites web qui rencontraient les standards. Ça veut dire qu'il y en avait près des deux tiers de ses propres sites qui n'étaient même pas conformes à son propre standard.
Et je pense que cette situation-là était encore plus criante au cours des derniers mois avec la campagne de vaccination, parce qu'on s'est aperçu que Clic Santé, c'était malheureusement parmi les deux tiers non accessibles.
Ah, tout à fait. Juste pour vous dire, récemment, là, j'ai pas revérifié ce matin si c'est encore le cas, mais on avait le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. avait mené, dont nous sommes membres, là, et à peu près 12 associations comme la nôtre, avait fait des démarches auprès du gouvernement du Québec pour faire retirer le CAPTCHA qui était nécessaire lorsqu'on voulait s'inscrire à des pétitions sur le site de l'Assemblée nationale.
Oui.
Or, quelle ne fut pas notre stupéfaction de constater, voilà quelque temps, que le CAPTCHA est de retour.
Ah oui?
Et toujours inaccessible.
Ils l'ont enlevé pendant quelques semaines pour nous faire plaisir.
Pendant quelques années.
Quelques années, puis là, c'est revenu.
Et là, ils nous l'ont remis.
OK.
Alors, il faut recommencer.
Oh là là.
Voilà.
Mais pour revenir à Clic Santé, ça, c'est une urgence sanitaire. Il faut permettre à la population de se vacciner. Et là, tout ce qu'on nous répond, c'est prenez le téléphone puis appelez.
Ben oui.
Alors, c'est...
Ben oui, et si on n'a pas la possibilité, je dirais que c'est particulièrement le cas quand on est non-voyant, mais c'est possiblement vrai aussi pour les personnes qui ont une basse vision, mais la basse vision est trop importante pour être capable d'utiliser le site web Clic Santé sans adaptation.
Et il y a d'autres formes de situations d'handicap aussi qui font que la fonctionnalité de site est souvent difficile à appréhender. Oui.
Alors, pour cet aspect-là, là, je ne pourrais pas commenter parce
je comprends.
Je ne sais pas si c'est un enjeu, mais oui, ça peut être un enjeu. Quand on parle d'accessibilité du web, on ne parle pas que d'accessibilité du web pour les personnes qui ont une déficience visuelle, bien que ce soit quand même...
L'essence, oui.
Une catégorie importante des gens qui ont des contraintes. Donc oui, Clic Santé, si vous n'avez pas l'occasion d'avoir quelqu'un qui peut le faire pour vous, vous allez être obligé de vous rabattre sur le téléphone avec les heures d'ouverture pas si accommodantes que ça, alors que Clic Santé, c'est 24 sur 24.
Tout à fait. Pour revenir à l'accessibilité, on va plus se concentrer sur les aspects qui ont trait au gouvernement, parce qu'on pourrait penser qu'il y a un rôle de leadership dans ce coin-là, comme quoi l'accessibilité des sites gouvernementaux devrait être sans faille. Est-ce qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui répond aux questions d'accessibilité ou c'est vraiment cas par cas, à chaque fois, il faut remonter la rivière avec un ministère ou un service?
Oui, alors ça dépend de quoi l'on parle. Fait que je vous dirais que c'est si on parle de règlements et de standards, là, ma compréhension, c'est que ça doit passer par le Conseil du Trésor. Mais par contre, lorsqu'il est question, notamment de Clic Santé, à ce moment-là, il faut parler à chaque ministère. Alors, il n'y a comme pas nécessairement au gouvernement du Québec une instance qui serait l'instance à qui s'adresser lorsqu'il y a des enjeux d'accessibilité. Donc, c'est comme un mélange de... Il faut aller à la bonne place pour parler du bon problème, disons.
Parce qu'il y a beaucoup de grandes sociétés privées qui sont soucieuses, évidemment, d'avoir une bonne image et dont la profitabilité dépend du contact avec la clientèle, qui maintenant, dans leur organigramme, dans leur direction, ont quelqu'un ou une personne qui est responsable de l'accessibilité dans le sens large pour tout ce que l'entreprise fait. Mais cette fonction-là n'existe pas au gouvernement.
Non, et il y a quand même des instances assez importantes. Là. Je citerai Radio-Canada en exemple, mm-hmm. où ils ont une équipe qui travaille sur l'accessibilité du web et des applications. Donc, quand il y a eu des enjeux d'accessibilité qui sont surgis, là, je pense que ça fait un an ou deux, à propos d'une version d'une de leurs applications, ben on pouvait s'adresser à la personne responsable ou à tout le moins à l'équipe responsable qui, mm-hmm. eux, ont pris ça en charge. Alors, vous avez tout à fait raison. Pourquoi je cite Radio-Canada, c'est que c'est quand même pas une petite structure, là. Il y a pas mal de monde qui travaille là-bas. Alors, il y aurait peut-être moyen de faire un peu la même chose au gouvernement du Québec, ou à tout le moins y avoir un endroit où on est capable de discuter des questions, d'acheminer les problèmes, et que par la suite, cette équipe-là prenne en charge de régler. Ça ne veut pas dire que ce serait nécessairement eux qui devraient tout régler, parce que, bon, on conçoit bien que le gouvernement du Québec, c'est...
tentaculaire.
Bonne structure, mais il faut quand même se donner les moyens il faut quand même se donner les moyens de faire appliquer ce qu'on adopte soi-même.
Tout à fait. Le RAM avec l'INLB, je pense, vous êtes en train de faire une stratégie qui, à long terme, c'est de contourner le problème des institutions trop lentes et d'aller voir les développeurs de sites.
Bien, ça, oui. Parce que ça fait partie du problème. On peut demander aux administrations et aux administrations publiques et aux compagnies et de tenir compte de l'accessibilité du web. Encore faut-il que les ressources avec lesquelles elles font affaire sachent comment faire ça.
Oui.
Et ça s'enseigne. Et ça s'enseigne notamment dans les universités, dans les cégeps. Alors, pour régler, à tout le moins, pour essayer d'améliorer la situation à cet égard-là, le RAM a effectivement un projet qui a été amorcé il y a quelques mois. Le but ultime, c'est d'aller sensibiliser les enseignants et les étudiants qui vont devenir les futurs professionnels du web aux besoins d'accessibilité et à l'importance d'en tenir compte quand on développe des contenus. On le prend par les deux bouts, là. On le prend quand on interpelle le législateur notamment, mais on le prend aussi de l'autre côté pour essayer de faire en sorte que au moins les développeurs et les futurs professionnels vont être sensibilisés aux enjeux de l'accessibilité. Donc c'est un projet qui a ça comme but ultime. Actuellement, on est à l'étape de préparer. Alors, ça va prendre la forme notamment d'une conférence qui serait... D'accord. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir présenter une conférence aux futurs professionnels du web qui sont en train de se former dans les cégeps et les universités et les enseignants pour leur parler d'accessibilité. Donc, c'est une conférence qui dure environ 1h30. On est en train de préparer le contenu de cette conférence-là. Et pour ce faire, on a déjà sensibilisé nos propres conférenciers. Ce ne sont pas des experts en accessibilité, mais on leur a quand même donné 10 ateliers de sensibilisation d'une durée d'une heure et demie chacune.
Ça fait beaucoup.
Ils ont quand même 15 heures de contenu, là. Mais ce ne sont pas nécessairement des experts en accessibilité, mais c'est des gens qui... Quand ils vont aller dans les universités et les cégeps, ils vont savoir de quoi ils parlent.
Ils vont parler la même langue aussi, parce qu'il faut faire le pont entre les usagers qui ont des challenges d'accessibilité, des usagers qui ont un handicap visuel, et les développeurs qui, eux, parlent dans un langage qui est le leur.
C'est peut-être pas nécessaire de tout maîtriser dans le langage, là, mais il faut au moins comprendre les bases de comment ça fonctionne là, pour être capable de se comprendre.
Alors, la conférence va être un peu le pont entre les deux. Et ça va être quelque chose c'est 90 minutes, un format numérique, donc vous allez pouvoir transporter partout ou diffuser comme vous voulez.
Oui, alors l'idée, c'est de développer, il y aura une conférence, mais il y aura également un outil de vulgarisation sur l'accessibilité du web qu'on va développer et une vidéo de la conférence également. Là, pour le moment, ce qu'on aimerait à terme, ce serait de pouvoir rencontrer le personnel dans à peu près 30 institutions postsecondaires dans la région, en fait, sur le territoire couvert par l'INLB. Mais pour le moment, bon, c'est très ambitieux comme objectif à terme. Pour le moment, ce qu'on aimerait faire l'automne prochain, c'est cibler 2 cégeps et 2 universités. Maintenant, là, les institutions ne sont pas encore identifiées et de toute façon, il faut préparer le contenu de la conférence, là. Donc, on est rendu à cette étape-là.
Pour ce qui est de... En fait, ça me semble assez ambitieux, mais en même temps nécessaire de voir que la prochaine cohorte de développeurs, la prochaine cohorte de ceux qui vont trouver les solutions d'accessibilité pour les usagers handicapés visuels, pour le web, serait au courant et serait sensible et connaîtrait les techniques et les choses qui sont importantes. Alors ça, c'est une démarche. Et l'autre, évidemment, bien, c'est de continuer à picosser le gouvernement et les grandes entreprises, parce qu'on peut aussi dénoncer les entreprises dont les sites sont déficients. Là, il ne faut pas se gêner.
En fait, ce qu'on espère pour ce qui est de la conférence dans les cégeps et les universités, c'est que ce ne soit pas juste la prochaine cohorte, mais c'est qu'on pourrait...
aller voir ceux qui sont sur le terrain, oui.
Ben, en fait, c'est ça pourquoi on veut développer une vidéo aussi, c'est qu'on aimerait qu'après, dans les universités et les cégeps, ce même contenu-là puisse continuer d'être donné aux cohortes qui suivent. Et c'est pour ça qu'il y aurait une vidéo de fait comme ça. C'est un outil qui serait utilisable. Parallèlement à ça, il y a, le picossage des instances. Mais on est en train aussi de travailler à développer une vidéo de sensibilisation grand public.
Ça, c'est bien. Ben, Monsieur Provencher, va falloir que nous en reparlions parce que je pense que ce ne sera pas un problème qui va se régler demain. Et malheureusement, les impératifs du temps nous amènent à vous dire bonjour et bon été. Mais Monsieur Provencher, restez au poste, continuez de travailler pour nous. Merci.
Merci, ça sera un plaisir de se reparler de
tout à fait
autre projet.
Cet automne. Merci.
Merci, au revoir.
Je m'effiloche par les bouts, à petits coups je me découvre, mais j'toffe. Pour combien de temps, ça je le sais pas, peut-être bien que j'avais pas l'étoffe. En attendant, je fais du piano dans un hôtel straight et rétro, y a pire. Jouer de la musique, c'est bien un jeu. Tant que je joue, c'est signe que je respire. Je ne suis qu'un joueur de piano. Cherchez pas trop loin dans mes mots. Y a pas de quoi tomber sur le dos du joueur de piano. J'y mets tout le cœur que j'ai dans le corps. J'aime les 13e et les accords foqués. Mais qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, je connais personne qui l'ait jamais remarqué. Même quand les doigts me font des faux ou que le piano me joue des fausses notes, les clients se font leur cinéma dans plus ou moins Casablanca. Why not? Je ne suis qu'un joueur de piano. Cherchez pas trop loin dans mes mots. Y a pas de quoi tomber sur le dos du joueur de piano.
quand les hommes vivront d'amour, moi mon affaire sera toujours précaire. Toi tu t'en fous tant que je te joue, as time goes by, who she loves you, who cares. Je ne suis qu'un joueur de piano, cherchez pas trop loin dans mes mots. Vous pourriez tomber sur le sol bémol, et ça c'est mauvais pour le dos du joueur de piano.
J'ai en ma compagnie Mme Danielle Sirois. Bonjour Mme Sirois, vous êtes au CEMO Côte-Nord et vous êtes également membre du conseil d'administration du ROSEF. On dit bien ROSEF? ROSEF. ROSEF, voilà, qui est un regroupement d'organismes spécialisés dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Comment allez-vous?
Mais ça va très bien, merci.
L'emploi, c'est vraiment une pierre d'assise pour la réalisation personnelle, pour l'indépendance, l'autonomie, l'acquisition d'une situation financière propre. C'est tellement important.
Tout à fait. Puis même, je vous dirais que ça fait partie aussi du rétablissement pour les personnes qui ont une problématique en santé mentale.
Mm-hmm, oui.
Parce que, justement, plus on est occupé à travailler, se lever le matin, avoir une routine régulière, mm-hmm. rencontrer des gens à son milieu de travail, se valoriser parce qu'on s'accomplit aussi des revenus. C'est certain que c'est pas à négliger. Et on vit beaucoup de la socialisation se passe beaucoup
en milieu
de travail.
Oui.
C'est sûr que là, pendant la pandémie, c'est différent, mais ordinairement, c'est là qu'on se fait des amis, des connaissances, des 5 à 7, des parties, les parties bureaux, ces choses-là. Donc, je pense que ça touche plusieurs sphères de la vie d'un individu que d'intégrer un emploi.
Parce que vous avez à la fois un rôle au CEMO Côte-Nord, c'est une chose, mais on va parler peut-être dans un sens plus large pour toute la province. Est-ce qu'il y a un profil typique de votre clientèle? Est-ce que vous retrouvez parmi les gens pour qui vous faites du placement d'emploi un type de handicap plus qu'un autre, une situation ou une problématique qui semble être plus fréquente? Est-ce qu'il y a des situations, des problématiques où l'employabilité est vraiment plus difficile?
Ben oui et non, parce qu'en fait, le ROSEF, c'est un regroupement provincial
mm-hmm.
qui regroupe des services d'employabilité
oui.
pour des personnes qui sont en situation de handicap à la grandeur du Québec.
Exact.
Il y a 24 organismes membres. On a à peu près le même rôle. On fonctionne à peu près de la même façon,
mm-hmm.
mais il y a des CEMO typiques pour certaines clientèles.
Ah, d'accord.
Alors, au Québec, il y a des CEMO qui s'occupent surtout de santé mentale,
mm-hmm.
D'autres qui reçoivent de la clientèle plus troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle. Il y en a qui sont toutes clientèles. Comme nous autres, plusieurs sont toutes clientèles. Donc, tout type de déficience. Nous autres, sur la Côte-Nord, c'est notre cas. Alors, si je parle de l'ensemble de la clientèle, je vous dirais que de plus en plus, moi, je suis là depuis 30 ans maintenant.
Oh, bravo!
De plus en plus, moi, je trouve que la clientèle santé mentale fait de plus en plus appel à nos services. Nous autres, notre bassin là, de cette clientèle-là augmente annuellement. Je dirais que j'ai constaté que probablement que les gens en parlent plus. Il y a des diagnostic de façon plus précoce. Les gens parlent plus.
Une plus grande acceptation aussi, une plus grande... Tu parles des employeurs. Est-ce que les employeurs sont plus ouverts?
Ben oui.
Moins de tabous.
C'est ça. La stigmatisation, là, c'est ça, je vous parlais des 30 ans. Entre il y a 30 ans et aujourd'hui, Mm-hmm. Il y a encore du travail à faire, mais la situation s'est grandement améliorée. D'accord. Puis je vous dirais que, ben oui, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, on comprend que tous les bassins de main-d'œuvre potentiels sont importants. Et ça, ben les employeurs le savent.
Oui.
Et moi, je trouve qu'ils font de plus en plus appel à nos services dans des milieux différents.
Mm-hmm. Oui, c'était ma question suivante. Est-ce qu'il y a un profil d'employeur ou de type d'activité où maintenant ça commence à s'élargir?
Ah, ça s'élargit. C'est dans toutes les sphères d'activité professionnelle. Sauf que moi, je constate en tout cas que c'est davantage dans la petite et moyenne entreprise.
Mm-hmm.
La grande entreprise, c'est très difficile de percer. On nous dit souvent, bon, oui, il y a les syndicats qui sont très forts dans les grosses entreprises. Il y a le fait aussi qu'on nous répond qu'à l'intérieur même de l'entreprise, il y a plusieurs personnes qui deviennent en situation de handicap, les suites d'un accident de travail ou de maladie professionnelle ou autre. Donc, pour conserver leurs personnes en milieu de travail, ben, ils vont nous dire, ben, on a déjà à l'intérieur...
Il y a déjà une inclusion, voilà.
Oui, oui. Puis, on peut servir à ça aussi. Hein. Les services d'employabilité, membres du ROSEF, peuvent, c'est pas juste de l'intégration en emploi, on peut maintenir à long terme des personnes en emploi. Donc, ça peut être une entreprise qui a déjà des gens au sein de ses actifs qui vivent une situation de handicap, et nous, on peut être présents pour, par exemple, mettre en application un plan d'intervention, des mesures d'accommodement. On peut, grâce à des programmes de subvention, entre autres le contrat d'intégration au travail, on peut...
aider l'employeur à se démêler avec toutes les formes de soutien qui peuvent être utilisées.
Oui, oui, oui. Puis ça permet à tous les types de soutien, hein, que ce soit de l'accessibilité des lieux, de l'adaptation de postes de travail, de l'accommodement des tâches. Il y a de la subvention salariale là-dedans. Il y a des frais d'interprétariat. Les gens ne pensent pas toujours, mais il y a toutes les personnes qui ont un handicap sensoriel. Hein?
Mm-hmm.
Donc, des problèmes auditifs, de langage, visuel, etc. Et ça, parfois, ben, ça prend seulement de l'équipement, de l'appareillage, et la personne est capable de continuer son emploi. Là.
Avec la situation actuelle qui fait que le télétravail, c'est le nouveau buzzword là, depuis maintenant un an, presque un an et demi, est-ce que ça l'a changé? Est-ce qu'il y a des façons, est-ce qu'il y a des types d'employabilité qui peuvent bénéficier du télétravail en attendant qu'on revienne un peu à une vie normale?
Bien, en fait, je vous dirais que ça nous a servi, ça a servi notre clientèle un peu, le
d'accord,
télétravail. Bien, parce que toutes les personnes qui ont un problème de mobilité,
bien,
ça règle en bonne partie la question.
Oui, tout à fait.
Parce qu'ils sont en mesure de travailler à partir de leur domicile. Et on a quand même plusieurs personnes au sein de notre caseload, en tout cas.
Mm-hmm.
On a des gens qui sont diplômés, on a des gens qui sont qualifiés.
Tout à fait.
Mais qui avaient des difficultés à intégrer, problème de transport en commun, intermunicipalité aussi.
Oui, sur la Côte-Nord, entre autres, votre expérience plus directe au CEMO Côte-Nord, les distances ont de l'importance.
Et oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs petites municipalités et il n'y a pas de transport intermunicipalité souvent. Fait que le transport, c'est souvent c'est l'obstacle numéro un, souvent, pour nos clients. Aussi, il y a c'est sûr, tous les problèmes de mobilité, quelqu'un qui serait en fauteuil ou qui marche avec des cannes, ou toute la mobilité, le fait de travailler...
À l'intérieur, non seulement entre le domicile et le lieu de travail, mais au lieu de travail même, je pense que on espère que les employeurs continuent d'écouter et d'intégrer parce que... Le potentiel humain inutilisé des personnes en situation de handicap est énorme. Il y avait eu une étude de l'Institut CDI il y a quelques années. Ça représente potentiellement des milliards ajoutés au produit intérieur brut. Bien, Mme Sirois, je vous remercie beaucoup. Poursuivez, j'allais dire pour un autre 30 ans, mais c'est peut-être un peu exagéré.
On va finir l'année.
Oui,
mais le CEMO va continuer d'exister.
Exactement.
Que je sois ou non.
Voilà.
Alors, c'est moi qui vous remercie.
Merci, bonne journée.
Musique.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez des nôtres la semaine prochaine, alors que nous nous entretiendrons avec M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. À Sans détour, la semaine prochaine. D'ici là, merci à Christiane Campagna et Jean-Sébastien Laliberté. François Beauregard vous dit au revoir.